au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
La Bibliothèque et Archives nationales du Québec, en abrégé BANQ, comprend 11 bâtiments. L'un d'eux, situé dans le quartier de Mont-Royal, est le centre de conservation. Il est essentiellement consacré aux exemplaires uniques, rares et précieux, et tout ce qui n'est pas livres, journaux, cartes anciennes, estampes, journaux, cartes postales, affiches, etc. Cette bâtisse, construite en 1948, était à l'origine une fabrication de tabac, de cigares. Ce type d'établissement utilisait les mêmes paramètres pour conserver le papier, c'est-à-dire humidité et lumière, des fenêtres murées avec système de contrôle de l'air, ainsi que la capacité portante des planchers, car la machinerie était très lourde. Rénové en 1996 pour accueillir la réserve de la BANQ, il a été inauguré l'année suivante. Nous avons rencontré sur place Sophie Montreuil et Daniel Chouinard, membres de la direction des acquisitions des collections patrimoniales, qui nous ont montré et décrit quelques-uns des trésors de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Alors, combien avez-vous de volumes ?
Dans la collection patrimoniale, on peut parler d'environ entre 5 et 600 000 volumes pour la collection patrimoniale québécoise. Beaucoup plus, évidemment, si on ajoutait la collection de prêts qui est dans la Grande Bibliothèque.
Ils sont répartis suivant un certain nombre de thèmes. Le fond est davantage tourné vers l'histoire du Québec, vers la littérature.
En fait, il n'y a pas de choix parce qu'il y a un dépôt légal, donc on reçoit systématiquement tous les jours tout ce qui est publié au Québec depuis 1968. Donc, c'est une vision d'exhaustivité. On essaie de tout avoir, ce qui est publié au Québec actuellement, mais également, on fait des efforts pour acquérir de façon rétrospective tout ce qui a été publié depuis les débuts de l'imprimerie au Québec, c'est-à-dire 1764, parce qu'on connaît très bien la date à partir de laquelle il y a eu des presses à imprimer sur le territoire. C'est tout de suite après la conquête, donc la perte de la Nouvelle-France par la France, et c'est le régime britannique qui a permis l'installation de l'imprimerie au Québec.
Il n'y avait pas d'autres ouvrages? Si, il y avait des ouvrages qui concernaient le Québec, mais qui étaient imprimés en France.
Exactement. Oui. On n'a jamais trouvé d'imprimé québécois datant de l'époque de la Nouvelle-France, oui, parce que le métier d'imprimeur y était interdit. Oui.
Mais j'imagine quand même que les ouvrages imprimés en France concernant le Québec vous intéressent aussi.
Tout à fait. On en a beaucoup. On a une belle collection.
Vous avez un exemple ici, là?
Oui, on a des voyages ici du Baron de la Hontan, avec une jolie carte. Donc, une édition de 1706, évidemment faite en Europe, à La Haye, cependant, pas en France. Donc, on a beaucoup, on essaie d'avoir, évidemment, tout ce qui a trait, par exemple, aux relations de voyage, relations des jésuites, par exemple, tout ce qui est récit de voyage, toute cette grande époque d'exploration de l'Amérique, que ce soit d'ailleurs par les Français ou par les Britanniques, et qui montre souvent, qui allie, si vous voulez, texte et cartographie. Ce sont souvent des ouvrages que les bibliophiles apprécient énormément parce qu'il y a ce côté un peu esthétique des cartes à l'intérieur. Donc, vous avez là un ouvrage qui combine les deux, le récit de voyage de La Hontan. Ici, on a une carte d'un certain Pierre Duval, inspirée du travail de Champlain, enfin des récits de voyage de Champlain. La carte date de 1677. Anecdote intéressante, elle a été achetée dans une vente aux enchères aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans. Donc, on fait des efforts pour retrouver des imprimés qui nous concernent, des imprimés qui sont, dans ce cas-là, des imprimés européens, mais qui peuvent se retrouver, par exemple, dans des bibliothèques américaines qui l'ont revendu dans une vente aux enchères. Et ça revient chez nous, finalement, après avoir fait de longs détours. Vous avez ici un livre qui est intéressant parce que c'est le premier livre imprimé à Montréal, dans la ville de Montréal. Ce n'est pas le premier livre imprimé au Québec. Le premier imprimeur s'est installé dans la ville de Québec en 1764, mais le premier à s'installer à Montréal était un Français d'ailleurs, Fleury Méplet. Et en 1776, il imprime ce premier livre à Montréal qui s'intitule « Règlement de la confrérie de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement », donc un livre à caractère religieux, mais qu'on retient aujourd'hui surtout pour le fait que c'est le premier qui a été imprimé à Montréal.
Donc c'est un petit cartonnage dans son papier d'après, avant reliure. C'est un opuscule finalement.
Oui, car il est probablement une commande en fait. Oui. Alors, ce Fleury Méplet est un personnage très intéressant parce que c'est un Français sympathique aux idées révolutionnaires américaines, ami de Benjamin Franklin, qui séjourne aux États-Unis. Et lorsque la France perd la Nouvelle-France, la Nouvelle-France et le Québec passent à l'Angleterre. Le métier d'imprimeur est alors permis par le régime britannique. Il est imprimeur de métier, il décide de venir s'installer au Québec pour pratiquer son métier en français. Mais il est resté très sympathique à ses idées des Lumières, Révolution américaine, et ça lui a valu beaucoup de démêlés avec le régime britannique. Il a fait de la prison, enfin, il a été pas mal embêté par le pouvoir politique, en fait.
Et c'était un sulpicien?
Non, lui, c'était un laïc.
C'était
un laïc français, non, au contraire, même plutôt
oui, il s'était commandé par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Ici, un cas intéressant, parce que vous avez un imprimé français avec une fausse adresse bibliographique. Donc, un livre, probablement pour contourner la censure, on indique Québec, mais on sait, par des recherches bibliographiques, que le livre a été fait à Paris. Alors, il est daté officiellement de 1768. Ce serait théoriquement possible qu'il ait été imprimé à Québec parce qu'il y avait un imprimeur depuis 1764, mais on sait très bien que le livre n'a pas été imprimé par ce... Il y avait un imprimeur unique, on sait très bien que ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc,
mais quand on regarde le titre, mais quand on regarde Lucile ou les progrès de la vertu, ça nous rappelle quelqu'un d'autre qui d'ailleurs pratiquait très bien non seulement les récits et surtout composait lui-même ses livres, c'est Rétif de la Bretonne.
Exactement. Alors voilà, c'est donc un livre de Rétif de la Bretonne. Ici, vous avez un des tout premiers catéchismes en langue montagnaise, donc en langue amérindienne, qui est très, très ancien, enfin 1767, imprimé à Québec. C'est une transcription phonétique, si vous voulez, de la langue montagnaise, faite par un jésuite français.
Ah oui. Et on peut peut-être essayer de lire le titre. Neiro Orinui Ayameye Massinaïgan.
Voilà, donc on essaie de transcrire avec nos caractères la prononciation de la langue montagnaise. Ce Jean-Baptiste de la Brosse est un jésuite français qui a séjourné en Nouvelle-France, s'est intégré à la communauté, à la tribu montagnaise et a appris leur langue. Et donc, dans ce souci d'évangélisation, a très tôt eu le souci de publier donc un catéchisme dans leur langue pour faciliter son travail d'évangélisation.
Il y a un ex-libris écrit,
oui.
Un ex-libris manuscrit, oui. Bec. Ça ne dit pas grand-chose.
Alors ici, une autre pièce un peu étonnante, qui ne paye pas de mine, mais qu'on a eu du mal à obtenir dans une vente aux enchères, c'est un mandement de l'évêque de Montréal en 1838, qui est célèbre parce que c'est un écrit dans lequel l'évêque de l'époque prend parti contre ce qu'on a appelé les patriotes, donc un mouvement révolutionnaire armé contre le pouvoir britannique. Et donc, le représentant de l'Église catholique, Mgr Lartigue, dans ce mandement-là, prend parti contre les révolutionnaires et pour le pouvoir britannique. Ça lui a été amèrement reproché par la suite, mais on n'avait pas de copie originale, d'exemplaire original de ce mandement. On avait des rééditions, mais pas celle-là. Et c'est venu récemment aux enchères cette année. Et ça s'est quand même vendu un assez bon prix pour un petit feuillet de trois pages.
Ben, il est vrai que tant que l'évêque traite ses patriotes de brigands, de rebelles, et il prêche en faveur de la fidélité du souverain.
Voilà. Donc ça a été assez mal accueilli par la suite. Ici, un autre imprimé français, 1669, intéressant pour nous parce qu'on y décrit, on fait des descriptions anatomiques de quelques animaux, et un de ces animaux est le castor, qu'on dit venir du Canada. Donc, ce Claude Perrault, qui est le frère d'ailleurs de Charles Perrault,
oui.
Donc faisait des dissections d'animaux et a publié ce livre et s'est donc essayé à disséquer un castor avec donc, cette belle gravure et dans un souci, dans le fond, d'avancement des connaissances en sciences naturelles.
Avec un trompe-l'œil sur la gravure, bon, on voit le castor et au-dessus, une feuille rajoutée, bien sûr, sur la même gravure où sont dessinés le cœur, une griffe, etc. Et cet ouvrage donc, a été imprimé en 1669 à Paris pour Frédéric Léonard.
Ici, un exemple encore d'ouvrage d'un mélange de sciences naturelles et de récits de voyage, John Mitchardson, explorateur britannique, qui publie donc, accompagne un autre explorateur anglais qui s'appelle John Franklin. Franklin a beaucoup cherché ce qu'on appelait le passage du Nord-Ouest.
Oui, le fameux passage.
Nord, qui n'a été finalement découvert qu'au début du 20e siècle. Mais donc Franklin, dans les années 1830, le cherche. Richardson l'accompagne et en profite pour prendre des notes sur ce qu'il voit. Il publie une série de 4 forts volumes sur la faune, la flore, les oiseaux et les poissons. On a acquis récemment celui sur les poissons. Donc, c'est un ouvrage qui, à l'époque, a fait date dans la discipline et lui a valu une réputation intéressante de scientifique. Mais c'est aussi un bel ouvrage pour les gravures et les illustrations.
Oui, on voit Salia Artica dans un superbe camaïeu de bleu. Et donc, cet ouvrage a été publié à Londres pour John Murray en 1831.
Ici, un autre ouvrage qui a fait date parce que c'est le premier traité de botanique de l'Amérique du Nord, donc par un certain Jacques-Philippe Cornu, qui décrit, sans être jamais venu en Nouvelle-France, décrit des plantes qui ont été rapportées probablement par un certain Louis Hébert, qui est un des tout premiers colons arrivés à peu près en même temps que Samuel de Champlain. Et donc, cet auteur français examine les plantes rapportées de Nouvelle-France, mais il est à Paris, et publie ce livre-là, qui est une première description, si vous voulez, de la botanique en Nouvelle-France.
Il y a quelques planches qui sont coloriées, d'autres qui sont restées à l'état de la gravure. Et donc l'ouvrage qui s'appelle « Canadensium plantarum aliarum quae nondum editarum historiae » donc est publié pour Simon Lemoine en 1635. Et ça, il compte 68 gravures.
Et vous voyez, Québec ayant été fondé en 1608, c'est très, très tôt.
C'est très tôt, oui.
C'est très tôt, au fond, pour faire ce genre d'études à caractère scientifique. Alors, de ce côté, on voulait donner un exemple des autres types de documents qu'on acquiert, une affiche gouvernementale, au fond, parce que c'est une affiche de promotion touristique faite par le ministère, enfin, ce qu'on appelait à l'époque l'Office de tourisme de la province de Québec. Probablement dans les années 40, enfin on met vers 1948, ça a été acheté dans une vente aux enchères à New York. On se rend compte qu'il y a un marché de l'affiche qui est très très actif, très important. Il y a une maison à New York qui s'appelle Swan Galleries qui deux ou trois fois par année tient de grandes ventes d'affiches. Et on était un peu étonné de constater qu'il y a plusieurs affiches québécoises à chaque fois qui viennent aux enchères, qui atteignent parfois des prix quand même assez surprenants. Et donc, ça nous a intéressés parce que c'était le Québec aussi, mais on était un peu étonnés de voir la qualité, enfin l'effort graphique pour une affiche d'État, une affiche gouvernementale de l'époque. Si on compare avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est souvent de la simple photographie, alors que là, il y a un véritable effort graphique qui a été fait. Ici, c'est un exemple de lots parfois disparates qui peuvent venir aux enchères. Tout ça était dans le même lot. Et au fond, a été acquis pour un prix assez raisonnable. Et cette seule gravure d'une artiste qui s'appelle Simone Hudon valait probablement, elle seule, plus que ce qu'on a payé tout le lot. C'était assez disparate. Et c'est amusant de voir comment le hasard du travail des maisons de vente aux enchères fait qu'on peut acquérir des choses, finalement, certaines qu'on possède déjà, mais ça peut devenir un deuxième exemplaire, mais parfois pour une chose en particulier.
Alors, précisons quand même que dans ce lot, il y a quatre gravures. Il y en a une qui montre une vue de Québec, donc de Québec-le-Port. On voit un bâtiment avec le pavillon britannique. Ensuite, une autre vue de Québec,
qui est
plus ancienne certainement, qui date du
tirée d'un livre.
Tirée d'un livre où la page est arrachée. C'est la figure 120. Donc, on ne sait pas trop, qui doit sans doute dater du XVIIe siècle, début XVIIe, à peu près.
Probablement, oui.
Et ensuite, donc, un plan, cette fois-ci, de la ville de Québec.
Italien, enfin, d'origine italienne.
Oui. Piano della Città di Québec, le fer.
C'est assez disparate. Et cette gravure des années 30, probablement 1930, d'une artiste qu'on ne possédait pas du tout, celle-là en particulier. On avait des choses de Simone Hudon, mais pas celle-là. Oui. Et c'est ce qui nous intéressait tout particulièrement, mais accessoirement.
Oui. Et donc, on sait que c'est Québec parce qu'on reconnaît...
Le château Frontenac, tout à fait. Oui. Le hasard des ventes aux enchères, si vous voulez. À peu près à la même époque que Simone Hudon, un artiste très connu chez nous, qui s'appelle Rodolphe Duguay, qui a fait beaucoup de gravures sur bois. Donc, un exemple en couleur de gravure sur bois des années 30, un artiste quand même important, qu'on a voulu mettre en parallèle avec un autre artiste très important aussi, Jean-Paul Riopel, qui a d'ailleurs fait longuement carrière en France, qui est au fond d'abord peintre et sculpteur, mais qui s'est mis plus tard à la gravure et qui a eu une production quand même très importante. Et on a eu l'occasion récemment auprès de certains collectionneurs d'acquérir des fonds importants de ces... a travaillé beaucoup en lithographie, entre autres. Donc,
il est mort à Paris ou il est rentré au Québec?
Il est rentré au Québec. Il est mort en 2002, à Montréal. Ouais. Ouais. Il était revenu, mais il a longuement séjourné.
Beaucoup de Français ignorent qu'il était québécois.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit à Paris. Tout le monde pensait qu'il était français, mais non, effectivement. Ici, donc en parallèle avec ces gravures plus récentes, c'est ce qu'on appelle une pièce d'iconographie documentaire, c'est-à-dire c'est également de la gravure, mais c'est l'aspect, il y a un aspect esthétique, mais c'est l'aspect un peu documentaire. C'est une vue de Montréal, milieu 19e siècle, Montréal vue de la rive sud du Saint-Laurent. Ça donne, évidemment, c'est joli, mais ça donne aussi un état de développement de la ville à l'époque. On connaît le Mont-Royal, on voit un certain nombre de bâtiments comme le marché Bon Secours, l'église Notre-Dame qui sont déjà là. Et on voit un peu, bon...
Il manque les tours, il manque les clochers, il
l'activité
manque...
L'activité sur le fleuve et tout ça. Donc, ça combine, si vous voulez, aspect esthétique et documentaire en même temps. Donc, c'est intéressant pour les expositions. Et on finit justement avec un monsieur français, monsieur Blondin, qui est le nom d'artiste d'un artiste assez intéressant dont le vrai nom était Jean-François Gravelet, donc un Français qui s'est rendu célèbre par c'est un funambule qui s'est rendu célèbre parce qu'il a traversé les chutes du Niagara sur un câble vers 1900, je pense que c'était 1859, alors. En 15 minutes, il fait 1300 pieds sur un câble, il traverse les chutes du Niagara, donc ça le rend très célèbre. Et il est donc au Canada à cette époque-là et donne des spectacles un peu partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle une feuille volante, donc... Un imprimé très éphémère, très difficile à trouver parce que c'était fait pour être placardé. Habituellement, c'était détruit après. Et ça annonce un spectacle dans la ville de Québec avec une petite gravure sur bois, justement, qui le montre. Et ça donne un petit peu une idée, donc, de la vie culturelle de l'époque, mais aussi des techniques d'imprimerie, de l'esthétique utilisée pour faire ce genre de promotion d'artistes en tournée.
Oui, c'est un document oblong. Donc on voit des légendes, enfin c'est assez amusant parce qu'avec des échasses sur la corde tendue, l'autre côté M. Blondin, comme il apparaît, fait un soubresaut, c'est le plus célèbre danseur de corde du monde, et positivement pour une soirée seulement. Et alors, il y a un patronage du colonel Gordon et des officiers de la garnison avec la permission de la bande, donc de l'orchestre du 17e régiment qui y assistera. Alors suit des intermèdes, les jeux remarquables, le tambour... Et j'ai l'impression, je ne sais pas si nous n'étions pas là, mais j'ai l'impression que les musiciens vont bien s'amuser.
Oui, alors ce genre de document qui est assez difficile à retrouver en bon état nous informe aussi sur la vie musicale, la vie théâtrale de l'époque. Et c'est assez utilisé par les chercheurs en histoire du spectacle, par exemple. C'est des choses qui leur servent, entre autres, pour connaître les distributions des pièces, le répertoire qui était joué à l'époque, le genre de manifestation culturelle aussi.
Est-ce que le Cirque du Soleil est venu s'intéresser à cette affiche?
Ah, ça pourrait, hein, ça pourrait les inspirer probablement. Par contre, ils nous envoient leurs affiches actuelles ainsi que leurs programmes. C'est intéressant parce que leurs programmes des différents spectacles qu'ils donnent de par le monde sont traduits dans tout plein de langues et le Cirque du Soleil nous les envoie pour qu'on puisse, dans le fond, témoigner un peu de ce rayonnement-là.
Oui, parce que vous évoquiez tout à l'heure les ventes aux enchères, mais donc vous recevez également des dons. La preuve,
des dons, des achats et le dépôt légal sont les trois sources d'acquisition, au fond. Je dirais, en volume, la principale source, c'est le dépôt légal, mais les achats et les dons sont très importants. Oui. Les dons sont très importants parce qu'il y a des choses qui ne peuvent arriver que par don, parce qu'elles ne sont pas... Ce ne sont pas des choses qui sont nécessaires, pour lesquelles il y a un marché. Je pense à les dons que les bibliothèques font, par exemple, parce qu'elles élaguent des collections qui ne leur sont plus utiles, mais qui, pour nous, sont très importantes. Et il n'y aura pas de marché de libraires, de collectionneurs pour de ce type de documents. Les journaux, par exemple, habituellement, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs qui s'intéressent à ça. Mais nous, on va recueillir le don de tout le monde, que ce soit le simple particulier qui a un livre à donner ou l'institution qui donne des grandes collections complètes. Donc, on reçoit de cette façon-là beaucoup de choses chaque année.
Et le marché des bibliophiles, le marché des libraires au Québec, est-il aussi florissant qu'on le croit en France ou est-ce que ça fonctionne d'une manière différente?
C'est un marché qui, je crois, comme en France, c'est un marché moins développé qu'en France. Je pense que le bassin de collectionneurs est moins important. Ça a des avantages et ça a des inconvénients.
Oui.
Donc, il y a moins de libraires. Je vous dirais, il y a peut-être une trentaine de libraires vraiment spécialisés dans le livre de collection au Québec. Ils sont d'ailleurs dans une association. Ils ont formé une association. Ils tenaient leur salon du livre à Montréal, d'ailleurs, la semaine dernière. Mais on voit que lorsqu'il y a des livres, par exemple, des livres de collection qui, en France, feraient des prix très, très importants, lorsqu'ils sont mis en vente à Montréal, habituellement, les prix sont plus intéressants. Donc, on assiste parfois
de faire l'inverse.
Oui. Oui.
Et ces bibliophiles sont-ils amis de la bibliothèque, par exemple, ou sont-ils constitués en société de bibliophiles?
Il y a une association qui s'appelle les Amis, effectivement, de la bibliothèque. Il y a des gens qui s'intéressent à la chose imprimée, qui en font partie. Et il y a aussi, bien sûr, des collectionneurs qui nous approchent régulièrement pour nous offrir des choses. Lorsque ce sont des choses de grande valeur, bon, parfois c'est des achats, parfois il y a des dons, il y a des crédits d'impôt qui peuvent être émis et tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'on a des contacts, dans le fond, assez réguliers avec des gens qui sont des collectionneurs. Lorsque je leur parle, et je leur pose souvent la question, y a-t-il une relève? Et souvent, la réponse est un peu angoissée, je vous dirais, parce que on n'a pas nécessairement l'impression que les générations plus jeunes ont une attirance aussi forte pour le livre que les gens qui collectionnent depuis 30 ou 40 ans aujourd'hui.
Alors c'est un peu votre rôle avec les expositions qui sont organisées dans la Grande Bibliothèque.
Oui. C'est, avec les expositions, avec les publications qu'on fait aussi, il y a une revue qui paraît trois fois par année qui s'appelle « À rayon ouvert » où on fait la promotion de nos collections, où on parle de nos acquisitions et qu'on décrit et on essaie de propager un peu ce savoir-là et cet intérêt pour la chose imprimée, oui.
Donc quand même, malgré tout, le livre au Québec se porte pas si mal que ça?
Non, en quantité, il ne s'est jamais publié autant de livres. Hein. On annonce régulièrement la mort du livre depuis des décennies, mais il ne s'en est jamais publié autant. Si on regarde, parce que comme Bibliothèque nationale, on publie ce qu'on appelle les statistiques de l'édition, alors on peut savoir exactement, comme on reçoit tout en dépôt légal, on reçoit à peu près 10 000 titres par année. Et ce chiffre-là est constant, ne diminue pas malgré Internet, malgré les ordinateurs et tout ça. On dirait que l'ordinateur, au fond, sert à fabriquer des livres, en partie au moins. Donc, ça ne diminue pas vraiment. Est-ce qu'ils se vendent? Est-ce qu'ils sont lus? C'est une autre question. Ils sont publiés.
Oui, ils sont lus, les livres au Québec. Il suffit de pénétrer dans une librairie pour s'en rendre compte. Les rayons sont surchargés et les clients saisissent les volumes, les feuillettes, les reposent, en tirent d'autres et recommencent le même manège, avant de repartir avec trois ou quatre livres sous le bras vers la caisse. Je les ai imités, non par mimétisme, mais parce que je souhaitais découvrir tel ou tel auteur. J'avais entendu parler de Marie-Cécile Abrèche, dont les romans à rien provocateur décrivent une féminité exacerbée, et aussi de Nelly Arcan, dont les deux premiers livres, La Putain et La Folle, tous les deux au seuil, ont fait partie de la sélection du prix Féminin et de celle du prix Médicis. Je cherchais en vin son dernier, À ciel ouvert, lorsque la vendeuse me dit que tous ses livres en rayon avaient été vendus l'avant-veille. C'est ainsi que j'ai appris sa mort. Il ne s'agissait pas d'une curiosité malsaine de la part de tous ses lecteurs qui se sont révélés, mais plutôt d'un hommage à celle qui avait préféré quitter la vie plutôt que de continuer, comme m'a dit plus tard une femme chauffeur de taxi, à être prisonnière du joug de l'apparence. Elle venait d'achever un quatrième roman, Paradis, clé en main, pour les éditions Coup de tête. J'ai poursuivi ma promenade dans le rayonnage et pris un petit livre intitulé « Le souffle du dragon » par Jean-Marc Beausoleil aux éditions Triptyque. Un recueil de nouvelles. L'auteur, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal des Trois-Rivières et aussi professeur de français, déjà titulaire de deux romans, dresse une sorte de portrait de ses concitoyens. Ils sont 13, confrontés à des épreuves dans lesquelles ils se sont jetés par hasard, volontairement, le plus souvent inconsciemment. Et nous éprouvons une certaine tendresse pour le jeune homme qui, le jour de la mort de son grand frère, apprend qu'il était en réalité son père et sa mère, sa grand-mère. Il part à la recherche de sa mère et c'est le bar de l'aéroport. Les personnages bien vivants, musiciens, dealers, journalistes, venus de Haïti ou d'ailleurs, surgissent avec des phrases simples, sans effet digressif, et nous nous prenons à les accompagner dans leur lutte ou leur tempête. Avec les responsables des achats de la réserve de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous sommes partis des origines des publications de cette province et avec eux, nous poursuivons notre découverte de cette littérature qui nous en apprend autant.